Claude, bonjour.
Bonjour.
On parle de chantage ce matin.
Dont a été victime l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, patron d'Amazon, mais aussi propriétaire du Washington Post, grand journal que Donald Trump considère comme un ennemi. Et justement, le maître chanteur fait partie de la galaxie du président américain. Il s'agit du National Enquirer, journal à scandale dont le propriétaire, Monsieur Pecker, est un ami de Donald Trump qui a facilité ses relations d'affaires avec l'Arabie Saoudite. En janvier dernier, le National Enquirer a révélé la liaison de Bezos avec une femme mariée, Madame Sanchez, texto enflammé à l'appui « Je veux te respirer ». Et Bezos, qui est en plein divorce, a voulu savoir comment et pourquoi ce National Enquirer se mêlait de sa vie privée. Et avec un détective, il s'est demandé si par hasard, le journal ne lui faisait pas payer à lui, propriétaire du Washington Post, les enquêtes du Post sur Trump et sur l'Arabie Saoudite. Eh bien, finalement, Bezos a reçu une proposition du National Enquirer que je résume ainsi. Si vous arrêtez d'enquêter sur nous, si vous dites publiquement que non, nous ne faisons pas de politique pro-Trump, alors nous ne publierons pas les photos de vous que nous possédons, notamment une dick pic. Dick, c'est le sexe masculin en argot américain. Alors, Bezos, hier, a raconté toute l'histoire lui-même dans un texte qu'il a publié sur la plateforme Medium. Et depuis, le vent monte et on en apprend des choses. D'autres journalistes, dont Dylan Farrow, qui avait révélé le scandale Weinstein, ont été menacés de la même manière par le National Enquirer. Et le journalisme se dresse contre le trumpisme et contre une brebis galeuse de notre profession grâce à un multimillionnaire, Bezos, qui écrit ceci également. Le Washington Post aura rendu ma vie plus compliquée. Mais quand j'aurai 90 ans, si j'ai la chance de vivre aussi vieux, il restera ma plus grande fierté. Devons-nous les envier, ces Américains, avec leurs milliardaires libres qui protègent des journaux qui le sont tout autant? Mais que vaut alors dans cette belle image ce dont parle l'humanité qui rappelle qu'en France, Amazon a licencié des employés qui soutenaient sur Facebook les Gilets jaunes.
Et puis, Claude, des affaires politiques aussi dans nos journaux.
Ce qui prouve que nos journaux, à l'occasion, savent aussi gêner les pouvoirs. Et les Échos nous confirment que le gouvernement, le nôtre, ne sait plus où il en est. Il se divise sur les véhicules diesel récents. Le ministère des Finances, pour aider l'industrie automobile, veut leur décerner le certificat critère de bonne vertu environnementale. L'environnement et les transports s'y opposent. Libération, Le Figaro, entretiennent l'affaire Benalla. Et Libération résume d'un mot tellement français cet entrelac de militaires bizarres et de consultants affairistes qui tournaient autour du talentueux monsieur Benalla. Le nouveau monde est devenu un demi-monde. Les titres sont faits pour tuer. Et celui de l'Obs, paru hier, est cruel pour Jean-Luc Mélenchon. Révolutionnaire imaginaire, décapé par le journal pour les affaires qui le suivent, comme pour son impasse idéologique. Car Mélenchon court, dit l'Obs, après des gilets jaunes qui ne veulent pas de lui. Et il serait l'idiot utile du populisme. Est-ce une preuve? Marianne publie un sondage de premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron ferait 30%, Marine Le Pen 27% et Mélenchon tomberait à 12%. Et cette course de petits chevaux est sans doute prématurée, mais elle dit pourtant une polarisation qui se sent en cet hiver de crise. Se fâchera-t-il contre les sondages comme il se fâche contre l'Obs, qu'il traite Mélenchon de poubelle macroniste sur Twitter? Ces mots sont faits pour salir. Ils ne disent pas la complexité des hommes ni des journaux. Et s'il n'est pas Mélenchon, l'Obs est dans ses pages idées très à gauche qui interroge l'essayiste radicale américaine Naomi Klein. Elle est partie à Porto Rico, dominion américain frappé par un ouragan en 2017, et raconte comment des organisations populaires pour reconstruire leur île s'opposent au capitalisme. Voilà donc, Nicolas, l'occasion de parler des peuples et plus seulement des grands. Lisez, dans La Voix du Nord, ce que l'ignorance de nos droits nous fait. Dans les Hauts-de-France, plus de 20% des bénéficiaires n'ont pas utilisé leur chèque énergie en 2018, ce chèque destiné à nous aider, plus pauvres d'entre nous, à payer les factures. Dans Le Monde, lisez ce que le bruit nous fait, qui rogne nos vies. En Ile-de-France, chaque année, 107 766 années de vie en bonne santé se sont perdues à cause du bruit. Chiffre d'un rapport qui doit sortir demain sur les impacts sanitaires du bruit des transports. Et l'impact se pose là. Après la pollution, le bruit est la seconde cause de morbidité en milieu urbain. Il perturbe le sommeil, retarde les apprentissages, favorise les maladies cardiovasculaires. Et plaignons les habitants de Compense en Seine-et-Marne qui subissent l'aéroport Charles de Gaulle, la ligne K du Transilien et la Nationale 2 avec ses poids lourds. Bruxelles et le Conseil d'État demande au pouvoir qu'il agisse. Voilà des protecteurs que n'imaginent pas les populistes.
Et un effondrement, Claude, dans Le Parisien.
Qui ne nous glace pas, cet effondrement, pardon pour le jeu de mots, car la glace est rongée par la mer et le réchauffement climatique, c'est la banquise qui risque de s'effondrer, dit Le Parisien, dans l'Antarctique, car un des plus gros glaciers, le Thwaites, aussi grand que la Grande-Bretagne, est creusé d'un trou aussi grand que l'île de Manhattan. Manhattan. Et si le Tweet se tombait et après lui la calotte polaire qu'il soutient, ce serait une montée des eaux qui engloutirait jusqu'à New York et Miami. Est-ce réversible? On voudrait pouvoir recoller la glace comme d'autres effacent leurs tatouages. C'est l'autre aspect du Parisien plus distrayant qui raconte dans son magazine les galères amusantes de ceux qui décident que finalement je ne t'ai plus dans la peau. Allons, consolons-nous à l'approche du week-end avec la beauté du monde et ces magnifiques pièces d'antiquité qui viennent du musée d'Arles et qui seront exposées à Genève et que montre la Provence. Consolons-nous en pensant à Daniel Barenboim qui aime la musique et le monde et qui nous en parle dans le magazine des Échos. Et puis s'il faut trembler, tremblons en souriant et pensons à ces fantômes qui rôdent à Perpignan et qui font la une de l'Indépendant. On exorcise là-bas Teresa de Béarn, jeune noble décapitée en 1661 pour l'assassinat de son amant, demandait réparation dans sa demeure de la rue de Foix. Il a fallu le curé d'Argelès pour en finir avec elle.
Claude Ascolovitch.
Et avec cette revue de presse.
Ben oui, ben merci. Point final.